Ouvrez votre Bible dans le premier livre des rois, dans l'Ancien Testament. On va voir une autre scène de prière. Très riche d'enseignements, encore une fois, évidemment. 1 Roi, chapitre 19. On avait déjà eu l'occasion de voir une scène de prière, vous la rappelez, en Exode 17, on avait relevé là l'importance de la compréhension de l'opposition des forces spirituelles lorsque nous prions. Nous avons vu la semaine dernière la nécessité en Luc chapitre 9, en l'occurrence, ce passage qui est souvent appelé la transfiguration. Mais en fait, ce qu'on a besoin, c'est de réaliser que nous avons besoin également de voir Jésus dans sa gloire, une révélation qui est d'ordre spirituel. Et ce soir, nous allons méditer sur un passage assez connu, de ce passage avec Élie qui est complètement déprimé et qui passe à un endroit dans une grotte à Horeb. Donc, premier livre des rois, chapitre 19. Donc, 1 roi, chapitre 19, verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea, but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit. J'ai déployé mon zèle. Ce mot-là, le mot zèle, ça veut dire mon amour intense, débordant. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul. Et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul. » Et il cherche
a ôté ma vie. » L'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras, etc., etc., etc. » Verset 19, Élie partit de là et il trouva Élisée. Amen. Il y aura beaucoup de choses à dire sur ce passage-là, mais nous allons garder notre attention sur la relation avec la prière. Alors, on le voit au verset 4, Élie répand son âme devant Dieu. Il est découragé, il est abattu. Il a le sentiment qu'il ne sert à rien. Il a le sentiment de n'être rien, d'être un instrument, lui le prophète, mais un prophète inutile. Et il considère même que la mort vaudrait mieux pour lui que la vie. Il considère que c'est fini pour lui, qu'il n'y a plus rien à faire. Il est tellement abattu, il est tellement brisé, il est tellement cassé qu'il réclame la mort. Ça sert à rien de continuer comme ça. Ça sert à rien. Vaut mieux tout arrêter là. Alors, il se couche et il s'endort. C'est un réflexe assez humain. On baisse les bras et en même temps on baisse les paupières. On préfère et on espère surtout fermer les yeux en espérant que dans ce sommeil on trouverait un peu de repos. Et c'est vrai que quand on a des soucis, des tracas, on dit « Ah !» On espère que dans le sommeil de la nuit, on va trouver un peu de réconfort, mais souvent c'est pas le meilleur des sommeils non plus. Et puis le réveil n'est pas forcément le meilleur. Mais on voit qu'Élie, il a plus envie. Il a plus envie de rien. Il a plus envie de faire d'efforts. Il veut plus aller plus loin. Il a même, vous avez remarqué, il a plus envie de contact. Au verset 3, il a renvoyé son serviteur. Il a envie d'être tout seul. Il a plus envie de rien. Il a plus envie de se battre. Il a plus envie d'être en contact avec les autres. Il se laisse aller. Il laisse aller Dieu. Il a plus que ses plaintes. Et il dort, espérant que dans ce sommeil-là, les choses vont passer d'elles-mêmes. Il y a un autre personnage comme ça qui s'appelle Jonas, pareil. Jonas lui dit, Dieu lui dit d'aller à gauche, lui il va à droite, il se met au fond du bateau, il dort. Mais le sommeil n'a jamais vraiment arrangé les choses. Et puis verset 6 à 8, alors que notre cher Élie espère trouver un peu de réconfort dans son sommeil. Voilà que Dieu envoie un ange pour le réveiller. Et Dieu finit par effectivement remettre Élie en marche pour un voyage de 40 jours. Et pas pour aller n'importe où. Hein. Pour aller à Horeb. En fait, si on regarde une carte, Élie était plutôt à Beersheba, c'est le nom qui nous est donné, et il a marché jusqu'à Horeb. En fait, il y a à peu près 400 kilomètres. C'est vraiment dans le sud. Et il nous est dit qu'Élie a marché 40 jours et 40 nuits. En fait, le chiffre 40 dans la Bible, c'est le chiffre de l'épreuve. 40 jours pendant lesquels notre cher Élie, il était abattu. 40 jours en état un peu dépressif, 40 jours où il ne savait plus quoi faire, où aller, 40 jours comme ça à porter le fardeau de sa déception, de son échec, 40 jours comme ça à marcher dans le désert, parce que le chemin qu'il a emprunté n'est pas un chemin avec plein de vallons, de prairies, non, c'est un chemin désertique, 40 jours dans le désert comme ça. Le désert, c'est presque le reflet de son état d'âme, quoi. Et il marche, jour, nuit, 40 jours. Et il faut bien reconnaître que ça nous est déjà arrivé. Si ça ne vous est pas encore arrivé, ça vous arrivera. De prendre ces chemins de désert. Même les meilleurs, hein. Élie fait partie des grands hommes de Dieu de la Bible. Et bien même lui, il a connu son chemin de désert. Même lui a connu cette période-là où il ne comprenait pas. Il marchait tout droit. Et il avançait. Je ne sais pas si lui-même savait dans quelle direction il allait, mais il y allait 40 jours, 40 nuits. En tout cas, ce qui est certain, ce qui doit nous rassurer, c'est que Dieu reste au contrôle de ces moments-là. Même quand nous, on ne comprend rien, même quand nous, on n'a plus d'envie, même quand nous, on s'est complètement éloigné, même des amis, des soutiens, Dieu observe, Dieu voit. D'ailleurs, le mot Horeb signifie désert. Mais Horeb n'est pas un lieu inconnu. Au contraire, Horeb, c'est un haut lieu du judaïsme. Horeb, c'est le lieu où Dieu s'est révélé à Moïse. Horeb, c'est le lieu où Dieu a donné ses lois à son peuple. Horeb, c'est le lieu de la révélation. Horeb, c'est le lieu où il y a une alliance qui a été faite entre Dieu et son peuple. Deutéronome, chapitre 5, verset 2, c'est écrit « C'est là que l'Éternel traita une alliance avec son peuple. » Deutéronome, chapitre 4, verset 10, il est écrit « Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » En fait, Horeb, c'est véritablement un lieu symbolique, un lieu fort, le lieu de la révélation. Et vous aurez le temps, j'espère, de lire à la maison comment les manifestations qui ont accompagné là, ces 40 jours où Moïse était sur cette montagne, il y avait ces tremblements de terre, il y avait ce feu, il y avait cette puissance, le peuple était dans la crainte, eux-mêmes ne voulaient pas monter sur la montagne, ils croyaient qu'ils allaient mourir. Ça a été un moment extraordinaire. C'est là que la loi a commencé à Horeb. C'est là que Dieu s'est manifesté. Et c'est là que Dieu attend Élie. Il est allé à Horeb dans son désert. Dieu nous emmène dans nos déserts afin de nous apprendre des choses. Vous savez, c'est incroyable comme les hommes actuellement, là, il y a toutes ces primaires là aux États-Unis, ils ont fait un grand rassemblement. Et ils font ça où? Ils font ça à Las Vegas, ils font ça là où il y a du monde, là où il y a des richesses, là où il y a la gloire des hommes, là où il y a du clinquant. Et là, les hommes aiment parler dans ces ambiances-là. Mais Dieu est un homme, est un Dieu qui aime parler lorsqu'on est dans les déserts. Il y a cette fameuse phrase en Osée chapitre 2 verset 16. Osée 2, 16. « Voici, je veux l'attirer, je veux le conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. » Ne fuyons pas les déserts. Qu'ils durent un jour, deux jours, 40 jours, que ce soit une période de temps. Les déserts, lorsque nous restons obéissants au Seigneur, ces déserts sont certainement des occasions extraordinaires pour que Dieu nous apprenne davantage de lui. Et là, verset 9, il nous est dit que Élie entra dans la caverne. Il y passa la nuit, et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Eh oui, comme on l'a dit tout à l'heure, Élie marche, il est dans le désert, il espère ne voir personne, il dort, il essaye là de fuir quelque chose, de fuir sa propre existence. Il est déçu à l'égard de Dieu. D'ailleurs, il lui dit ce qu'il y a, mais il ne cherche pas à communiquer, il ne cherche pas à comprendre ce que Dieu pourrait tirer de cette situation-là. Et là, dans le désert, c'est à ce moment-là, après 40 jours, que Dieu commence à lui parler. Il ne lui fait pas de reproche, il lui pose juste une question. Élie, qu'est-ce que tu fais là? Élie, tu en es où? Cette question, vous pouvez y mettre votre prénom. Tu en es où, Marthe-Hélène? Et toi, Joël, qu'est-ce que tu fais là? Hé, David, tu en es où? Et dans ta marche, tu en es où, Régine? Tu en es où? Qu'est-ce que tu fais là? Tu en es où, Élie?
Alors Élie, oui, il répond. Et Élie justifie sa dépression. Il explique pourquoi. Et voilà, c'est normal.
Mais on sent surtout dans la réponse de Élie qu'il ne sait plus quoi faire. On sent un homme qui est lassé, qui est fatigué. On sent qu'il est perdu. Pourtant, Élie, c'est pas n'importe qui. Élie, c'est l'homme de Dieu par excellence. C'est l'homme qui a prié et pendant 3 ans, plus de pluie.
C'est l'homme qui a prié et à sa prière, la pluie est revenue.
C'est l'homme qui a fait tomber le feu du ciel. Là, sur son ordre, sur sa parole, le feu du ciel est descendu, brûler le local qu'il avait préparé. Élie, c'est pas un petit. Élie a déjà vu les merveilles de Dieu. Élie, c'est un homme de force, d'autorité.
Et là, Élie, il est complètement perdu. Complètement perdu. Il ne sait plus où il en est.
Il avait des espérances. Il avait l'espérance de la réunification d'Israël et de Juda. Ça ne s'est pas fait. Il avait l'espérance que Achab puisse se repentir de Jézabel et que le peuple puisse peut-être tuer Jézabel comme lui-même il avait tué les faux prophètes. Mais rien du tout de tout ça.
Élie, il en peut plus, il sait plus quoi faire, il est perdu.
Alors Jésus, enfin pardonnez-moi, Dieu lui dit au verset 11, « Sors et tiens-toi là. » Derrière ce « tiens-toi là », ça veut dire « sors et mets-toi debout, regarde, observe. » Et là il se passe une succession d'événements. Élie entend un vent fort, tellement fort que ce vent arrive à briser les rochers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vents comme ça, mais comprenons là qu'il y a une manifestation surnaturelle. Et puis après ce vent fort, il y a ce tremblement de terre. Vous avez l'impression d'être dans une montagne, dans une grotte, et là ça tremble autour de vous. Et puis après, il y a un feu, il y a le feu qui descend. Et dans toutes ces situations-là, la Bible nous dit que Dieu n'y était pas. Mais surtout, on voit que Élie est resté dans sa grotte. C'est après qu'il va sortir, mais pendant tout ce temps-là, Élie est resté dans sa grotte. Il est resté là avec son cœur fermé. Il est resté là dans son désespoir. Il est resté là dans son obscurité. Il est resté là accroupi. Il est resté là assis. Il est resté là couché. Il est resté là avec son état d'âme. Malgré les tempêtes, malgré le vent, malgré le tremblement de terre, malgré le feu, il est là. Et lui, il n'arrive pas, il ne perçoit pas la présence de Dieu. Parce qu'il est déjà habitué à toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là ne touchent même plus son cœur. Au travers de tous ces événements miraculeux et forts, le cœur d'Élie ne demeure inchangé. Parce que Dieu sait qu'il n'a pas besoin de ça, mais il a besoin d'autre chose. Et au verset 12, deuxième partie du verset 12, il nous est dit qu'après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Vous vous rendez compte, on passe presque d'un... Non, c'est même pas presque, on passe du tremblement de terre un murmure doux et léger. On passe d'un vent violent au bruit subtil du silence. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Un murmure doux et léger. En fait, si on avait à traduire, c'est très difficile de traduire cette expression, mais il faut comprendre que c'est un son calme, fin, un son léger. Certains ont voulu traduire en disant un son du silence. D'autres ont choisi la voix subtile du silence. C'est, je ne sais pas comment le définir, mais c'est le son du silence. C'est quelque chose de tellement léger, de tellement fin, de tellement subtil. Et c'est là que le cœur de Élie est saisi. Parce que là, ce n'est pas seulement un son, mais il ressent la présence de Dieu. Il n'y a plus de démonstration de puissance, il n'y a plus ce vent, il n'y a plus ces choses brusques et extraordinaires. Mais là, Élie réalise que Dieu est là. Il le perçoit avec son cœur. C'est pour ça, comme on vient de le lire, c'est à ce moment-là qu'il se lève. C'est à ce moment-là qu'il sort de la grotte. C'est à ce moment-là, enfin, qu'il sort de son trou. C'est à ce moment-là qu'il commence à se tourner et à aller vers Dieu. Et il faut comprendre dans cette dernière cette expression que quand il est dit qu'il se... Il se couvra le visage. C'est une manière, c'est un geste d'humilité et c'est un geste de crainte de Dieu. Et ce qui est beau à relever dans ce moment-là, c'est que ce n'est plus Dieu qui va vers Élie, mais c'est Élie qui va vers Dieu. Ce qui est beau de relever dans ce passage-là, c'est qu'on retrouve ce Élie qui a envie de retourner vers Dieu. Il retrouve cette disposition de cœur. Il a envie de... Il se lève enfin. Il sort de sa misère. On sent que son cœur est changé. Il a envie de retourner vers Dieu. Et le verset 13. Dieu repose la même question. Que fais-tu ici, Élie? Où en es-tu? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Élie? Et Élie répond exactement la même chose. Bien sûr, les mots sont les mêmes, parce que les circonstances n'ont pas changé. Et ce qu'il disait avant, dans les plaintes et dans les larmes et dans les pleurs et dans l'abattement et dans le découragement et dans l'envie de mourir, c'était vrai. C'était juste. C'était son ressenti. C'était la situation. Et Élie n'a rien d'autre à dire. Alors évidemment, il dit exactement les mêmes choses. Mais son cœur n'est plus le même. Avant, il était dans l'abattement, dans le découragement. Maintenant, il est simplement dans le constat. Et soyons bien au clair là-dessus. Si Dieu ne change pas les circonstances et qu'il veut changer notre cœur. Et quand on est dans ce chemin du désert, quand on est dans ces chemins de difficulté, quand on est dans ces chemins où tout nous paraît sombre, où il nous semble que la seule solution soit pour nous de nous enterrer nous-mêmes dans une grotte et attendre la mort en dormant. Oui, peut-être que Dieu ne va pas changer les circonstances, peut-être. Mais par contre, il fera en sorte, au travers de cette intimité, de changer notre cœur pour que nous puissions continuer la marche. Verset 15. Dieu lui confie une nouvelle mission. Lève-toi et pars. Alors tu vas d'abord et vous lirez. Alors Dieu lui confie plusieurs missions. Et il ne la refuse pas. Il part en toute obéissance, comme on a lu au verset 19. Élie partit de là. Et il trouvera effectivement les choses telles que Dieu l'avait prévenu. Il retrouve un chemin, il retrouve cette direction, il retrouve son service, il retrouve son ministère, il retrouve sa raison d'être. Nous avons vécu, nous avons vu, nous avons entendu, et j'espère que nous verrons et nous entendrons et nous participerons encore à voir le miraculeux de Dieu. Amen. Ça fait partie de la grâce qui nous est faite. Mais n'oublions jamais que ce qui redonne de l'élan à notre cœur, ce qui nous donne du courage, ce qui nous donne de la hardiesse, ce qui nous redonne véritablement de l'envie de vivre les choses avec Dieu, ce n'est pas le surnaturel de Dieu, mais c'est la présence de Dieu. C'est l'intimité de Dieu. C'est ce murmure doux et léger que notre oreille ne peut pas saisir, mais que notre cœur, par l'Esprit, peut réaliser. Toutes les fois que nos âmes sont abattues, toutes les fois que nous sommes comme cassés, toutes les fois où nous aurions envie nous aussi de dormir plutôt que de vivre, toutes les fois où nous avons envie de baisser les bras, toutes les fois où il nous semble que c'est inutile de continuer comme ça. La réponse n'est pas dans le surnaturel de Dieu. La réponse, elle est dans la présence de Dieu. Elle est dans cette intimité, elle est dans cette nécessité de retrouver ce contact avec la voix de Dieu. Elle est dans ce chemin peut-être désertique, mais qui nous ramènera surtout à réentendre la voix de Dieu. Et cela se passera bien loin des discours, bien loin des systèmes, bien loin des projecteurs, mais cela se retrouvera dans cette intimité, dans ce cœur à cœur avec Jésus. Quand nous sommes abattus, découragés, épuisés, desséchés, sans force, sans espoir, alors faisons comme Élie. Retournons où tout a commencé. Pour le peuple d'Israël, tout avait commencé à Horeb. C'est là que Dieu s'était manifesté, c'était là que Dieu avait fait une alliance avec son peuple, c'est là que Dieu avait donné ses lois. Nous, tout a commencé, non pas au Horeb, mais tout a commencé à Golgotha. Tout a commencé à la croix. Et quand dans notre vie, il y a ces moments de dessèchement, ces moments de perte de vitesse spirituelle, retournons à la croix, retournons à la parole de Dieu, retournons aux fondamentaux de la relation avec Dieu, retournons à l'amour, retournons à cette intimité, à cette simplicité avec Christ. Bien souvent, par nos vies, nous nous encombrons de plein de pensées, de logique, de raisonnement. Mais quand nous sommes desséchés, retournons au pied de la croix, retournons à Jésus lui-même. Faisons comme Élie. Acceptons ce désert. Acceptons de faire taire tous ces bruits qui nous fatiguent, tous ces bruits qui nous lassent. Et reconnectons-nous avec la douceur du Saint-Esprit. Reconnectons-nous avec la joie du Saint-Esprit. Reconnectons-nous avec la simplicité de la présence de Dieu. Reconnectons-nous avec la joie que peut avoir un enfant d'être avec son Père. Reconnectons-nous. Ne cherchons pas toujours les tremblements de terre, les feux et les vents violents. Parce que ce que l'homme a le plus besoin, et ce que nous avons besoin en tant que serviteurs de Dieu, c'est d'être toujours à l'écoute du murmure doux et léger de la voix de Dieu. Lorsque nous n'en sommes plus, lorsque nous n'entendons plus cette voix, lorsqu'il n'y a plus cette sensibilité qui touche notre cœur, alors effectivement, il peut y avoir les vents, il peut y avoir les feux, il peut y avoir les tremblements de terre, sans que l'Éternel y soit. Il y a comme ça des prodiges, des miracles, du bruit, mais des cœurs qui n'ont plus cette simplicité, cette relation avec Dieu. Le plus important, c'est que notre oreille, l'oreille de notre cœur évidemment, par le Saint-Esprit, soit toujours capable d'entendre la voix du Seigneur. En tout cas, si nous sommes comme Élie, voyons comme lui ce chemin. Et alors nous pourrons faire cette prière que d'autres ont fait, notamment au psaume 51, verset 12. Et ça aurait pu être la prière d'Élie. Il ne l'a pas formulée en tant que telle, mais nous pourrions la faire. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Voilà ce que Dieu a apporté à Élie. Un cœur pur et un esprit bien disposé. Dieu n'a pas changé les circonstances. Le Dieu des miracles n'a pas changé. Mais ce qu'Élie avait besoin, c'est de retrouver ce cœur pur et cet esprit bien disposé pour reprendre sa marche, pour quitter cette voie du désert et retourner à son ministère de prédicateur, d'annonciateur de bonnes nouvelles et d'homme qui apporte l'onction pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Amen.